Les voix du livre. Une émission proposée par Claire Garand, biographe chez memorialiste.fr. Alors aujourd'hui encore, une émission un peu particulière, puisque oui, le déconfinement est arrivé, mais il n'est encore que partiel, et les studios de Bac FM travaillent aussi bien que possible dans cette période délicate. Il ne nous est donc pas possible pour l'instant de réaliser les émissions dans les studios, mais c'est pour bientôt, on l'espère en tout cas. Et en tout cas, rien n'arrête Bac FM, puisque je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Benoît Mainville, écrivain, auteur de polars et de romans jeunesse. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation à distance. Vous êtes venu pour nous parler de vos livres et de votre passion pour ces objets pleins de pages, puisque vous êtes également libraire à la FNAC de la Défense à Paris. Donc, vous vivez entouré de livres, les vôtres et ceux des autres, et pour adultes, pour adolescents. Alors, justement, peut-être déjà, quelle est votre perception de la littérature ? Dites pour adolescents, est-ce que pour vous c'est une littérature différente ou bien est-ce que c'est de la littérature tout court ?
Alors déjà bonjour et merci de votre invitation. Je dirais que mon parcours avec la littérature adolescente s'est fait en même temps que mon parcours d'écrivain et mon parcours de libraire. C'est un secteur en fait qui a émergé dans les librairies. À un moment, je pense, où il y a plusieurs éditeurs qui se sont posé la question de se dire comment est-ce qu'on pourrait, peut-être à une ère de où tout est accessible et de choix multiples, comment on pourrait harponner, faire plaisir aux ados dans les librairies, au milieu de toutes ces couvertures qui peuvent se ressembler un peu toutes, quand on prend les couleurs classiques, je dirais, Gallimard, Stock, Grasset. Et donc ce sont des éditeurs, il y a toute une génération d'éditeurs qui est arrivée avec cette envie de proposer une littérature percutante, plutôt axée sur le romanesque, hérité quelque part du roman populaire, qu'il soit anglo-saxon ou français, avec l'envie de raconter des personnages, avec l'envie de raconter des histoires avec un grand H, non pas que ce soit pas le cas avant. Mais je pense que c'est le monde merveilleux du marketing de l'édition qui fait des livres, des objets, qui a rencontré celui d'éditeurs et d'auteurs qui ont eu envie, en effet, de raconter des histoires qui peuvent, pourront, ont dû être lues, je pense, à la fois par des ados et à la fois par des adultes.
Et vous, quand vous écrivez ?
Alors moi, quand j'écris, je n'écris pas pour un public précis. C'est-à-dire que je raconte une histoire et après j'ai une espèce de forme d'espoir qu'il pourrait être lu à la fois par un ado, puisque malgré tout, c'est l'endroit où le livre va être positionné en librairie, dans le secteur jeunesse ou jeune adulte ou young adulte. Voilà, il y a toute une terminologie qui a suivi l'émergence de ce secteur. Mais moi, j'aime bien l'idée de me dire que la littérature sont des ponts et que les parents, les grands-parents aussi éventuellement vont lire, que les livres peuvent parler à plusieurs générations.
Et d'ailleurs, il y a des classiques de la littérature considérés comme littérature jeunesse aujourd'hui qui ont été écrits pour des adultes.
Tout à fait. Bah, moi, mon livre de chevet, c'est Tom Sawyer. Tom Sawyer, c'est quand même le grand récit d'enfance qu'on va trouver à la fois en littérature jeunesse, puis en roman adulte. Après, le secteur jeunesse, vraiment, c'est à part. C'est vrai, c'est presque un contre-exemple, Tom Sawyer, dans le sens où c'est vraiment littérature jeunesse. Alors que la littérature ado, c'est vraiment quelque chose, oui, qui est arrivé. Je disais, moi, par exemple, quand j'avais 14-15 ans, je lisais Stephen King, je lisais de la SF, je lisais des auteurs classiques ou du polar. Mais il n'y avait pas de secteur ado. Mais il n'y avait pas non plus, inversement, la profusion de livres qui existent maintenant aussi. Donc je pense que ce secteur qui est une littérature jaillissante, c'est vrai qu'on n'est pas dans l'autofiction, on n'est pas dans la littérature axée sur le moi, on est vraiment une littérature, je dirais, de littérature de partage, une littérature d'abondance, où les auteurs, on a à cœur à la fois peut-être de faire du roman, d'apprentissage initiatique, mais surtout et de l'ancrer dans des mondes, des univers, qu'ils soient réels ou fictifs, qui emportent le lecteur et surtout ont envie d'y retourner. Nous, les auteurs à young adult, en fait, ou adolescents, on a face à nous un public soit acquis, donc c'est un public de lecteurs pour qui il va vraiment falloir continuer à être exigeant quand notre travail, mais il y a surtout des lecteurs qui ne lisent pas, des ados pour qui la lecture est plus une obligation, voilà. Et moi, c'est vrai que j'ai découvert ce secteur sans vraiment le vouloir. C'est ma rencontre avec mon éditeur. Il se trouve qu'il écrit, il a édité, il a créé sa collection, la collection Extreme chez Sarbacane en 2006, comme vraiment une envie de faire de la littérature pour ados. Et puis après, progressivement, le terme adulte est venu progressivement se greffer de façon humble et parce qu'elle a été saluée en fait aussi par la critique. C'est une collection qui vraiment remporte un succès à la fois critique et public depuis plusieurs années, parce qu'il y a plusieurs générations qui s'y retrouvent. Et donc du coup, moi au début, je commençais à écrire pour les ados, mais moi j'écris des histoires. Je ne vais pas entre guillemets changer ma façon de raconter une histoire ou adapter mon vocabulaire. Non, moi je raconte des histoires, j'écris. J'écris en fait de la même façon quand j'écris un roman adulte. J'en ai écrit finalement qu'un actuellement, c'est un roman policier.
Oui, au rural noir, oui.
Mais les autres, à des degrés divers, je pense qu'ils peuvent plaire à des publics qui commencent de 13 jusqu'à, il n'y a pas d'âge. Hein.
Oui.
Ça dépend de la sensibilité de lecteur en fait, du lecteur ou de la lectrice. Là, c'est vraiment une question de sensibilité et d'envie d'être curieux.
Et donc vos romans ont aussi un côté assez social, donc assez ancré dans le réel. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cet aspect réaliste ?
Ah ben moi, c'est d'aller en fait au plus près des choses, tout en les imprégnant d'une fiction qui permet aussi le voyage. Je fais pas de la sociologie, je pense que le travail de l'écrivain tel que moi je me sens investi de celui-là, ça va être de raconter le réel, d'être au plus près de la vérité. Mais même quand je fais un récit fantastique, mes personnages, si je les ancre dans une réalité sociale, je vais essayer de la retranscrire de la façon la plus fidèle, soit parce que je la connais, soit parce que j'ai travaillé dessus.
La fiction vous faites un détour par la fiction pour mieux atteindre le réel quelque part.
Oui, en fait, des fois, je dirais que par exemple, si je prends le cas de héros qui racontent un monde imaginaire, totalement surnaturel, qui va rencontrer la réalité, une réalité sociale qui est celle des personnages, le monde, entre guillemets, le plus dur et le plus effrayant n'est pas forcément celui qui va surgir dans la réalité. Hein, c'est peut-être celui dans lequel baignent déjà les personnages à la base.
Oui, vous pouvez peut-être dire quelques mots de héros, juste pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas les romans, puisqu'il y en a plusieurs.
Héros, c'est mon dernier travail en date, c'est un diptyque, c'est un grand cri d'amour à la littérature fantastique, à la littérature de genre, et à la fois au roman de pote, comme un peu tout mon travail. Hein. On va imaginer, pour synthétiser, que j'ai fait rencontrer les mondes de la bande dessinée, parce que ça raconte l'histoire de trois potes qui ont à cœur de prendre la suite d'une BD qui, depuis des décennies, raconte les affrontements entre un personnage investi de pouvoir et des créatures cosmiques que j'ai empruntées à l'univers de Lovecraft. Mm-hmm. Et ces personnages-là vont bien sûr, évidemment, se retrouver dans une réalité qui dépasse la fiction.
Ah bah oui.
Et en fait, donc c'est un hommage aux années 80, 90, aux comics, aux mangas, à tout ce qui m'a façonné en tant que lecteur et puis futur écrivain.
Ça rappelle un petit peu la série Strange Things, à certains égards.
Quand ça a débarqué, je me suis dit, je vais peut-être devoir changer mes plans, moi, parce qu'ils sont un petit peu en train de faire ce que je suis en train de faire. Et puis non, en fait...
Non, c'est pas la même histoire, c'est... Voilà. C'est l'ambiance.
Je dirais que depuis que Spielberg a mis un gamin sur un vélo et qu'il l'a fait pédaler dans la cambrousse, il il a une espèce d'autorité là-dessus, mais ça se faisait avant, ça se faisait après, et quiconque a habité ou a été à la campagne sait que quand on a 12-13 ans et qu'on monte sur un vélo avec toute sa bande de potes, bah on vit la même chose, même s'il n'y a pas d'extraterrestres, on réinvente en fait des histoires, on vit on continue à perpétuer quelque chose de collectif.
Oui, puis qui est très humain, je veux dire. Donc c'est normal qu'il y ait une espèce de fond commun, mais c'est le fond qui est commun, pas le reste. Mais justement, vous parlez souvent dans vos interviews de divertissement intelligent en littérature. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce que vous entendez par là? Parce que c'est un petit peu déjà ce que vous venez d'évoquer.
Ben, c'est, alors moi, je j'aime pas, par exemple, faire passer des messages, ce genre de choses, c'est pas mon travail. Moi, c'est en montrant la réalité, en donnant la parole à tout le monde, que ce soit ceux qu'on va considérer comme les méchants, comme les gentils. Tout le monde a le droit à la parole, en fait, dans un roman. On raconte une histoire. Et ça va être d'essayer, de la façon la plus irrésistible et la plus sincère possible, de plonger le lecteur dans un livre qui va conjointement mêler une histoire captivante et puis un travail sur l'écriture, d'être exigeant avec sa façon dont on va raconter le récit, dans les dialogues, dans les descriptions, dans l'univers que je vais camper. Le divertissement intelligent, je dirais que c'est celui qui va permettre un petit peu de s'élever tout en continuant à manger du pop-corn. C'est moi, c'est vraiment une certaine idée de Spielberg du cinéma, même si Spielberg a créé les multiplex, ce genre de choses et tout quand il a débarqué. Mais derrière, on voit dans sa façon de faire du cinéma que c'est un grand monsieur, un génie. Voilà, c'est de happer le lecteur.
Oui, voilà. Donc, pour vous, quand vous écrivez un roman de divertissement intelligent, vous essayez donc de rendre compatible le pop-corn et l'élévation, si je comprends bien.
Ah oui, parce que moi, je me suis façonné comme ça, j'ai grandi comme ça, en essayant à la fois de me régaler quand je lisais des bouquins, quand je regardais des films, des séries, mais d'essayer peut-être changer à chaque fois, mais peut-être de comprendre un petit peu le monde qui est et qui sera ou qui était autour de moi. Essayer de montrer ce monde-là, alors que dans toutes ses qualités, dans tous ses défauts, et de mettre les valeurs qui sont les miennes, non pas pour en faire une œuvre moralisatrice, bien au contraire, mais de faire passer des émotions. Et je pense que quand on partage des émotions, que ce soit dans le partage d'un livre, d'une œuvre musicale, d'un film, on connecte en fait les gens entre eux et ça permet de faire reculer, c'est aussi mon but un petit peu caché, mais de faire reculer la médiocrité et la bêtise qui habitent un petit peu notre époque.
Ça, c'est de l'objectif. Alors, vous avez parlé de communion musicale. On va faire une petite pause. Alors, c'est une pause dynamique, puisque vous avez choisi Thin Lizzy Will Be Strong, donc de extrait de l'album Chinatown, et vous allez nous en dire quelques mots juste après. On écoute Thin Lizzy.
Pity the fool, it's hard, but he made the rule. That isn't done, somehow, someday, brother will use a gun. Just walk in the town, just painting the sand. It's bringing me down, it's driving me mad. See you.
stone. And that is a right that we should walk alone on the streets at night. Let's check in the time, walking that verifying line. The humor is black, the plan is attack. A woman is away from me, but we will be strong. I know we have the strength to carry on. Questions are why? Does anybody hear? Does anybody understand? Let me make it clear, now's the time to take a stand. Now woman is away from me, but we will be strong. I'm sure we have the strength to carry on.
Alors c'était donc Thin Lizzy, Will Be Strong, extrait de Chinatown, choisi par Benoît Mainville, qui est avec nous dans les voix du livre. Alors Benoît Mainville, pourquoi Thin Lizzy, pourquoi Will Be Strong?
Bah, We Will Be Strong, c'est un petit peu un mantra qui doit se coller à nous, je pense aussi. Déjà, ça a toujours été un peu un mantra pour affronter la vie, et je pense que dans cette époque qu'on est tous en train de traverser et avec un futur un petit peu flou, je pense que ce sont des mots qui sont forts. We Will Be Strong, nous serons forts, nous devrons être forts. C'est un morceau de hard rock qui m'arrache les larmes quand je l'écoute avec mes filles sur les genoux. C'est quelque chose de transgénérationnel parce que je l'ai découvert moi quand j'étais ado par les grands frères, parce que c'est pas du tout mon époque, hein, ça date des années 70, et puis c'est la caution gracieuse, douce du hard rock, pleine de velours, intelligente, avec un riffing extrêmement bien construit. Enfin, c'est un morceau et c'est un groupe que j'aime d'amour, en fait, et que j'adore écouter avec mes enfants, parce que justement, ça fait partie des styles de hard rock et de metal très écoutables et très partageables en famille.
Eh ben, merci d'avoir partagé cette passion avec nos auditeurs. C'est vrai que c'est assez, si c'est quelque chose d'aussi important pour vous, c'est important pour nous. La musique joue un rôle dans votre écriture. Vous en écoutez ou au contraire pas du tout pendant que vous écrivez?
Ah, c'est un rôle capital. J'écoute tous les vendredis, j'écoute à peu près tout ce qui va sortir en termes de musique hard rock et metal.
Alors juste, je précise pour les auditeurs que le vendredi est votre jour d'écriture, pour qu'ils comprennent pourquoi c'est le vendredi que vous en écoutez.
C'est à la fois mon jour d'écriture et puis c'est le jour où les disques sortent. En fait, je suis un gros consommateur de musique, j'achète beaucoup de disques encore. Et la musique joue un rôle capital. Je dirais que il m'arrive parfois d'imaginer des scènes à partir de morceaux que je vais écouter, que ce soit des morceaux de hard rock ou de chaotique death metal les plus cosmiques et les plus barrés, les plus violents. Il en sort à chaque fois une sève, une essence en fait qui va m'aider dans l'écriture. Et quand j'écris, oui, j'ai mes marottes, j'ai les groupes, parfois des musiques même que certaines personnes considéreraient comme étant du bruit, mais qui pour moi me transcendent d'émotions et qui me font ressentir plein de choses, et j'écris en musique. La collection Exprime porte une playlist en fait au début du bouquin. Alors mon éditeur, il a créé, je pense pas que ce soit le premier, mais il a eu cette idée-là pour donner un côté très punchy, très haut. Alors au début c'était plutôt urbain, la collection c'est matinée. Elle est venue à la toucher à toutes les régions et tous les styles, mais c'est des morceaux soit qui sont importants lors de l'écriture, soit que l'on retrouve dans l'histoire, soit que l'auteur a envie de faire partager, même s'il n'écoute pas de musique pendant qu'il écrit.
Oui, voilà. Alors, est-ce que vous avez une playlist particulière pour les livres qui se passent dans la Nièvre ? Alors, c'est une question très orientée, bien sûr. Parce que je voudrais rappeler aux auditeurs qui ne connaissent pas forcément vos romans que vous avez écrit plusieurs romans qui se passent dans la Nièvre et notamment dans le Morvan. Donc, est-ce que vous avez des musiques associées à ces romans ?
Ah ben, y a certains morceaux qui me rappelleront à jamais les étés circulaires, pour emprunter le titre du chef-d'œuvre de Marion Brunet, qui écrit dans le même domaine que moi. Des morceaux comme Thunderstruck de AC/DC, qui est le morceau qui ouvre mon roman noir rural noir. Là, c'est tiré d'une histoire vraie, comme on dit. Y a des morceaux, oui, qui seront à vie. Collé à ma selle de vélo quand on faisait nos 14 kilomètres pour pouvoir aller se baigner sous un cagnard du tonnerre avec le goudron qui veut pas nous faire avancer. Ouais. Et la musique est collée à mon ADN.
Donc, on a plusieurs sensations qui sont attachées à ces souvenirs. Du goudron, l'odeur et la musique. Alors, vous entretenez une relation particulière avec les régions françaises et en particulier avec la Nièvre. Pour quelle raison ?
La Nièvre, j'ai coutume de dire en toute humilité que c'est mon Mississippi en fait. Parce que, alors je ne suis pas originaire de la Nièvre, mon grand-père l'était. J'ai une maison dans laquelle il est né, dans laquelle ma mère a passé toutes ses vacances et moi également. Ensuite, avec mon frangin, on descendait toutes les 6 semaines faire des petites vacances, puis 2 mois entiers en grandes vacances. Nous avons noué avec cette région et avec toute une bande d'amis très proches des liens d'acier, je dirais. Et ça a capitalisé totalement tout ce qui allait grandir dans mon cœur d'amoureux de littérature buissonnière et d'apprentissage pour l'après, mais ça je ne le savais pas. J'aime cette région, mais j'aime aussi les gens qui continuent à se battre aussi pour elle, parce que c'est pas facile. C'est une région sinistrée, un département. Alors moi, je vais plutôt dire département, parce que la Nièvre, je connais plus que d'autres départements autour. Mais la Nièvre, c'est un département sinistré, même s'il s'y passe. Enfin, il y a toujours du positif partout, mais je veux dire, mon regard d'adulte a évidemment changé par rapport à mon regard d'enfant, et c'est ce que j'ai raconté aussi dans Rural Noir. Un regard qui était plein de naïveté finalement et qui s'est pris la réalité sociale de plein fouet.
Rural Noir étant un roman pour adultes, hein, je précise juste pour les auditeurs.
Alors il est pour adultes, il peut être lu par des ados je pense à partir de 15 ans, mais il est pour adultes parce que comme il porte en lui le côté roman policier qu'on peut pas inclure dans une collection type Exprime parce que c'est une collection plus large. Et puis moi c'était aussi mon envie, mon rêve d'être édité à la série noire chez Gallimard. C'est pour ça que j'ai fait cette fois une infidélité à Sardacane pour raconter cette histoire.
Mais vous avez écrit d'autres histoires avec toujours la Nièvre en toile de fond, mais je dirais plus solaire.
La Nièvre est dans chacun de mes romans, à part les géants qui se passent au Pays Basque, mais qui va quand même raconter aussi un autre territoire, une autre France périphérique. J'ai rencontré en fait le prix Goncourt 2018 Nicolas Mathieu, qui est devenu mon grand pote, mon grand frangin d'écriture en 2014, juste quand lui il a écrit son premier polar, et puis moi quand j'ai publié Les Géants, et on s'est vraiment rendu compte qu'on a le même âge. Et c'était pareil avec Marion Brunet, et que nous écrivions sur les mêmes thèmes en fait. Nous étions un petit peu ceux qui arrivaient comme les Américains, les Jim Thompson dans les années 70, le David Goodis et tout, allaient raconter l'Amérique des marges et tout. Mais nous, on avait cette envie de raconter aussi tout ce qui n'était pas urbain, d'aller raconter à la fois les territoires et à la fois les gens qui y vivent, et d'imaginer des histoires à l'intérieur, donc que ce soit des histoires noires, sombres, ou comme Les Belles Vies par exemple, qui même oui. S'il contient une tension dramatique, puisqu'il va raconter l'histoire de deux banlieusards qui sont envoyés en maison ils ont fait une bêtise, ils sont envoyés en fait chez une accueillante familiale dans la Nièvre, et ils vont y vivre en fait pareil, cet été en boucle, qui forge, qui s'il ne change pas une vie, permet peut-être de façonner et de devenir. Et en effet, c'est un roman qui est beaucoup plus lumineux, qui fait la part belle au paysage, à toutes ces sensations que j'adorais quand j'étais ado. Alors évidemment l'été, mais je dirais que je pourrais écrire les quatre saisons de la Nièvre parce que je l'ai quand même bien connu. Et
oui, c'est vrai que dans ce roman, on sent le goudron qui colle aux pneus, hein. Tout à fait.
Ouais, c'était vraiment faire la rencontre de deux mondes, de cette jeunesse de banlieue, un peu en manque de repères, et qu'elle ait rencontré une jeunesse, la jeunesse du cru, comme on dit, également pas épargnée par la vie, et cette espèce de mélange explosif allait donner un de mes romans dont je suis plus fier, qui contient énormément de moi dedans.
Mais ça se sent, hein. Enfin, je trouve, hein, c'est personnel. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est votre actualité ? Alors, je sais que ça a été un petit peu chamboulé avec le virus. Il y a des choses qui ont été retardées. Mais qu'est-ce que vous nous préparez pour la suite ? Pour allécher un petit peu nos auditeurs.
Bien là, c'est vrai que Héros m'ayant pris énormément d'énergie, énormément de moi-même, et j'étais très fier, j'ai vraiment eu à cœur.
Ah oui, il faut le lire, hein. Héros, il y a deux volumes, mais ça se lit tout seul, il faut le lire.
Merci, c'est très gentil. Et c'est, en fait, c'est mon boulot de libraire me montre à quel point la surproduction et tout est quelque chose qui est en train de tuer la chaîne du livre. Donc je préfère prendre un petit peu mon temps. Donc j'ai terminé un projet pour les plus jeunes, parce que j'ai écrit également deux romans chez Sarbacane toujours, mais dans la collection Pépix, qui sont des romans vraiment destinés pour le coup aux 8-12 ans. De romans. Et là, j'en ai écrit un autre qui est clôturé, qui est dans les mains d'une illustratrice maintenant, parce que c'est un roman qui comporte une cinquantaine d'illustrations et qui va mettre en scène de façon totalement fictive, mais pas forcément en fait, mes deux petites filles dans une grande valse de bêtises et de frétillement de canailles.
Ça promet.
Ça sort en avril 2021, c'est fini. Et là, je suis dans l'écriture de mon prochain Exprime, qui sortira, lui, en septembre 2021.
Alors voilà, notre programme est tout trouvé. Eh bien, écoutez, merci encore, Benoît Mainville, d'avoir répondu à notre invitation, malgré les circonstances un petit peu étranges. Et j'invite tous les auditeurs, quel que soit leur âge, parce que moi je suis pour les lectures à tout âge et de tous les âges, donc j'invite les auditeurs à retrouver vos héros dans vos romans. et à suivre votre actualité, un peu retardée par le confinement, mais qui va finir par arriver.
Merci à vous.
Alors avant de continuer l'émission, eh bien je vous propose de faire une petite pause musicale, alors une pause musicale intense, puisque nous allons écouter Thunderstruck de AC/DC. Tout est dans le titre, hein, c'est le coup de tonnerre. Donc nous nous retrouvons après le coup de tonnerre. Voilà, c'était Thunderstruck de AC/DC, une musique qui dérouille les oreilles comme on le fait très bien sur Bac FM. Vous êtes bien de retour dans l'émission Les Voix du Livre. Et j'ai gardé une petite surprise pour la fin de l'émission, une surprise en boîte à déguster qui nous est réservée par le festival Aux Quatre Coins du Mot, festival qui se déroule chaque année à la Charité-sur-Loire et qui donne la parole aux mots. Mais cette année, bien sûr, confinement oblige, et ben il a fallu tout réinventer. Pas facile, mais Philippe Lemoine, directeur de la Cité du Mot, a relevé le défi, et avec brio. Et il est avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors le festival Aux Quatre Coins du Mot a eu un coup de génie, qui tient dans moins de 300 cm3, mais c'est une boîte à malice parce qu'elle est plus grande à l'intérieur que l'extérieur ne le laisse supposer. Alors, on est tous très curieux. Qu'est-ce que vous avez mis dedans ?
Bah, écoutez, c'est gentil déjà d'utiliser ces mots-là. C'est vrai que, qu'est-ce qu'on a mis dans cette boîte ? Eh ben, on a mis le festival, en fait, puisque le festival, on pouvait pas le faire en vrai. On s'est dit qu'on allait le faire en boîte. Et c'est parti d'une plaisanterie et puis c'est devenu une réalité. Et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut mettre dans une boîte pour évoquer tout ce qu'on aurait fait du 20 au 24 mai à la Charité-sur-Loire pendant le temps d'Aux Quatre Coins du Mot. Et c'est parti de ça. Et donc les contenus de la boîte sont des contenus qui sont tout à fait liés au festival. Et finalement on a presque un festival entier mais en boîte.
Eh ben dis donc, et ça tient.
Et ça tient, voilà, ça tient grâce à une belle boîte qu'on a pu trouver et puis un rangement soigneux à l'intérieur et puis ça tient aussi parce que il y a une boîte en vrai, une boîte colis qu'on peut recevoir, qu'on peut offrir, qu'on peut tenir dans ses mains, mais il y a aussi grâce à un petit mot de passe qui est dans la boîte une autre partie, une réalité augmentée puisqu'on peut accéder avec ce mot de passe sur notre site à tout un festival, à une quarantaine de pages qui sont finalement les 40 artistes qui devaient venir au festival et qui chacun ont proposé des choses, des bonus, des inédits, des messages. Donc il y a tout ce qu'on a, tout ce qu'on trouve en vrai dans la boîte dont on va parler, et puis il y a tout ce qu'on trouve en ligne et qui continue d'évoquer et de parler du festival.
Ah oui, donc c'est vraiment une boîte augmentée, c'est pas juste une boîte.
Exactement, c'est deux parties, mais il faut passer par la réalité pour passer dans la fiction, donc il faut passer par la boîte en vrai et son livret pour trouver le mot de passe et puis continuer l'expérience en ligne.
Oui, donc c'est un peu une aventure, comme le festival en vrai, en fait, d'une certaine manière.
C'est un parcours qui est fait effectivement d'aventure, où on a à la fois de la générosité, de la curiosité, et puis des surprises, puisque une boîte et un festival, ça a en commun d'avoir à l'intérieur des surprises. On ne sait jamais trop ce qu'on va y trouver quand on y va, et ça fait partie du plaisir.
Et alors maintenant que tout le monde a très envie d'ouvrir cette boîte chez lui, est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut se la procurer et où ?
Alors la boîte, les boîtes sont en vente. C'est la Cité du Mot donc qui les a préparées. Et peut-être un tout petit mot sur les contenus détaillés de la boîte que vous allez recevoir chez vous, si vous la commandez ou si quelqu'un vous l'offre. Une boîte festival autour des mots, c'est avant tout des livres. Donc il y a deux livres dans chacune des boîtes, deux ouvrages qui ont été sélectionnés parmi une vingtaine d'ouvrages qui allaient être présentés ou proposés pendant le festival. Ça, c'est pour la lecture. Il y a un jeu. Le festival, c'est aussi beaucoup de jeux. Cette année, on avait prévu de faire transformer le cloître en un espace de jeux. Donc, on a créé un jeu spécialement, qui est une espèce d'hybride entre un jeu de loi et des jeux de lettres, avec des filles linguistiques. Et donc, on a un jeu qui est absolument original, puisqu'il a été créé spécialement, et c'est le jeu du festival.
Ça donne envie, hein ?
On peut y jouer avec des grands, mais aussi avec les petits. On peut l'utiliser simplement en jeu de loi, on peut l'utiliser avec les défis linguistiques, et puis aussi, on peut aussi inventer ses propres défis. Donc, Donc voilà, on peut y jouer longtemps, je l'espère. Donc ça, c'est pour jouer. Et un festival, c'est aussi des expositions, ou c'est aussi une ville dans laquelle ça se passe, hein, la Charité-sur-Loire. Donc on voulait qu'il y ait cette présence. Donc à travers des cartes postales, on a mis aussi dans la boîte des cartes postales qui représentent à la fois des expositions qu'il y aurait eu, mais aussi la ville elle-même, puisque on n'a pas eu la chance de pouvoir arpenter ces rues pendant les 4 jours. Le mot, c'est aussi écrire.
Bien sûr.
Donc on a un crayon et un carnet dans la boîte, mais on a aussi lancé un appel à écriture, une contribution à écriture, qu'on peut trouver dans le livret qui est également dans la boîte et qui présente un peu l'ensemble de tout ça comme un programme. Dans ce programme, on trouve un appel à écriture et on espère qu'on va recevoir de nombreuses contributions de la part d'écrivains en herbe ou pas qui vont avoir envie de participer à cet appel à écriture qui va continuer tout l'automne et jusqu'au printemps prochain.
Ah bah, avis aux auditeurs alors, hein.
Et puis un festival, c'est aussi des goodies, comme on dit, des petites choses. On achète souvent un sac ou un carnet ou un marque-page ou un magnet pour son frigo. Donc on a mis aussi ces petites choses dans la boîte. Donc il y a aussi des petits cadeaux pour se faire plaisir. Et puis, comme je l'ai dit, il y a ce mot de passe qui permet d'accéder à l'ensemble des contenus en ligne, où là, il y a énormément de choses de la part de tous les artistes.
Ah oui, mais alors on a vraiment envie d'expérimenter tout ça. Hein. Là, c'est complet, hein. Très interactif.
Hein. Et oui, c'est en tout cas, il y a de quoi faire. Et l'avantage d'un festival dans une boîte, c'est qu'il ne se termine pas le 24 mai. On a réussi à ouvrir le cloître et à distribuer un certain nombre de boîtes sur place, ce qui était important, parce que le cloître s'était quand même fermé depuis la mi-mars. Mais les gens qui s'intéressent à la lecture, au jeu et à tout ce que je viens de décrire peuvent finalement se faire le festival à leur propre rythme tout au long de l'été, puisque les boîtes seront en vente et accessibles jusqu'à la fin de l'été et sans doute au-delà pour les contenus en ligne. Pour se la procurer, il y a deux solutions. Il y a un numéro de téléphone qui est celui de l'Office de tourisme de la Charité qui vend les boîtes. Je peux vous donner le numéro de téléphone.
Oui.
Si vous souhaitez. C'est le 03 86 70 15 06. 03 86 70 15 06. Office du tourisme. Vous pouvez les appeler ou régler votre boîte en carte bleue et puis vous dites comment vous allez la récupérer. Si vous habitez dans la communauté de communes ou à moins de 20 km de la Charité, on peut vous la porter chez vous.
Oh, bah dis donc.
On peut vous l'envoyer par la poste en rajoutant quelques frais d'envoi, puisqu'on est obligé de les envoyer par Colissimo. Mais Colissimo, ça arrive dans les 48 heures. Donc et ça marche bien. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, il y a d'autres moyens de récupérer la boîte. C'est de venir la récupérer. Soit de venir la récupérer à la Charité, à la Cité du Mot ou à l'Office de tourisme. Soit la récupérer dans une des 3 librairies indépendantes qui sont nos partenaires. Le Millefeuille à Clamecy, qui est notre partenaire principal, puisque c'est avec eux qu'on a commandé l'ensemble des ouvrages pour le festival. Et puis, il y a également le Cyprès à Nevers, qui a des boîtes, et page 58 à Cône-sur-Loire, qui a des boîtes.
Oh bah, on a l'embarras du choix.
Ce sont des points de retrait, donc vous ne pourrez pas acheter vos boîtes là-bas. Il faut les acheter d'abord auprès de l'Office du tourisme, et puis ensuite vous pouvez venir les récupérer dans un de ces points de retrait. Si vous appelez l'Office du tourisme et qu'ils sont trop occupés pour vous répondre parce qu'on a eu beaucoup de demandes ou qu'ils sont fermés ou autres, si vous n'arrivez pas à les joindre, vous allez simplement sur notre site internet www.citedumot.fr, citedumot.fr. Et là, il y a un petit bon de commande, vous remplissez le bon de commande et puis on vous rappellera pour, pour régulariser votre commande.
Bon, alors, oui, c'est facile. On n'a aucune raison de ne pas pouvoir obtenir la boîte. Je crois que c'est... Ça, en tout cas, ça donne vraiment envie, tout ce que vous nous en avez dit. C'est une vraie boîte à surprise. Alors, avis aux amateurs, pour l'interaction, pour écouter, pour écrire, pour lire. Je crois que tout le monde pourra y trouver son compte. Merci beaucoup, Philippe Lemoine, de nous avoir dévoilé tous les secrets de la boîte. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'expérimenter.
Exactement, merci à vous d'avoir fait ce relais et puis on est très très heureux d'avoir réussi à proposer quelque chose dans des moments qui sont un peu compliqués. Et...
C'était un sacré tour de force.
Oui, mais c'était surtout une volonté qu'on a faite à plusieurs. Hein. Il y a eu beaucoup de partenaires, beaucoup de bonne volonté. J'ai parlé des libraires, j'ai parlé des distributeurs, des artistes qui ont contribué. C'est quelque chose qui a résonné positivement pour tous. Se dire, bah tiens, oui, finalement. Faisons cette chose qui paraissait un petit peu bizarre au départ et puis qui finalement a marqué les esprits et le festival 2020 a eu lieu et a lieu. Et ça, c'était important. Il n'y en a pas tant que ça qui ont réussi à maintenir une activité. Donc, on est heureux d'avoir pu le faire.
Exactement. Un festival confiné, déconfiné. Voilà. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Philippe Lemoine. Alors... C'était notre petite surprise de la fin de l'émission. Les Voix du Livre vous donnent rendez-vous le mois prochain. Nous recevrons le poète Florent Papin, dont le recueil Peine est en lice cette année pour le prix de poésie de l'Académie française. Et nous vous disons donc à bientôt pour de nouvelles aventures livresques dans les studios de BAC FM.